talmudique. Pierre Savy, bonjour.
Bonjour.
C'est un grand plaisir de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre conversation autour de l'ouvrage que vous avez dirigé avec Katel Berthelot et Audrey Kishelevski, Histoire des Juifs, un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours, paru aux presses universitaires de France. Et c'est par ces dates que vous avez, Pierre Savy, choisi avec votre équipe de nous faire découvrir cette histoire juive s'étalant sur 3000 ans. Pourquoi ce choix de la date? Quel avantage lui trouvez-vous? Quelle saveur, quel parfum? L'histoire par date, qui n'est plus en odeur de sainteté dans l'historiographie contemporaine, avez-vous voulu nous offrir, Pierre Savy?
Je dois d'abord, pour répondre, en commençant par la toute fin de votre question et en disant que ça n'est pas un manifeste historiographique pour la date qui viendrait combattre ce mouvement que vous avez évoqué, assez ancien maintenant, ça fait plus de 100 ans que les historiens ont remis en question le primat de ce qu'on appelle l'histoire événementielle ou l'histoire bataille, hein, celle qui vraiment s'attelle à raconter de façon très exacte des événements assez réduits. Non, il s'agit pas de dire ça contre l'historiographie dite des annales, dite structurale, dite de la longue durée, etc. Pas du tout. Il s'agit d'utiliser cette porte d'entrée qu'est la date pour conduire des lectrices et des lecteurs qu'on espère les plus nombreux, bien sûr, possible, mais dont on sait qu'ils sont pas nécessairement des collègues, des historiens, des chercheurs, des sociologues, pas du tout. C'est un livre qui est destiné à un vaste public. Et donc, les conduire en leur donnant aussi une grande liberté, à la différence de ce que ferait un récit très serré. Notre livre permet librement de se promener, de butiner, de pérégriner. À la fin de chacune des notices, il y a des renvois à d'autres dates. Et donc, les lecteurs qui m'ont parlé de leur expérience de lecture, c'est amusant parce que certains disent qu'ils sont allés voir ce qu'ils connaissaient. D'autres sont allés voir des trucs qu'ils connaissaient pas du tout. Certains commencent par Israël et le très récent. D'autres commencent par des hautes figures plus anciennes. Enfin, il y a vraiment toutes sortes de voyages possibles. Mais je crois que la date, c'est donc une certaine forme de liberté donnée au lecteur, à la différence de ce que ferait une somme très très lourde et très continue. La date, elle assume le discontinu. Il y a des trous, hein. Il s'agit pas de faire toutes les années depuis 3230 ans. Il y a plusieurs auteurs. Donc c'est un propos chorale, comme on dit un peu en cinéma, c'est-à-dire, voilà, il y a plusieurs voix qui s'expriment, éventuellement un peu dissonantes, hein, d'ailleurs, sur les questions politiques, par exemple. Enfin, c'est pas un livre politique, mais voilà, il y a des sensibilités différentes. Et la date, ça permet donc la polyphonie et l'orchestration d'une polyphonie sans ce qu'on appelle la téléologie, c'est-à-dire il ne s'agit pas de dire que depuis le début on va vers le présent, il y a des possibles, il y a des expériences, il y a des échecs, il y a des figures oubliées qu'on exhume, et c'est ça que nous permettait de faire la date. Ça compose un livre constitué de textes assez courts, sans notes, avec un tout petit peu de bibliographie à la fin de chacune des dates, mais qui finalement, j'espère, et je crois que ça a été le cas, enfin, se lit assez aisément.
Une histoire mosaïque, vous dites. Mosaïque avec le jeu de mots et en même temps 70 auteurs. J'ai pensé, et je pense que c'était voulu parce que la Septante, la traduction de la Bible en grec a été faite selon la tradition par 70 sages. C'est un petit peu la Septante de l'histoire que vous avez voulu faire.
Là, on retrouve la téléologie. Dès le début, je me suis dit que ce serait marrant, si vous me passez l'expression, qu'on soit 70. Mais en fait, on peut pas décider d'être 70 parce que entre le collègue qui vous fait faux bond, celui ou celle qui finalement vous rejoint à la dernière minute, bon, ça c'est bien terminé. Effectivement, c'était amusant d'être 70 comme la Septante. Je pense que en effet, il y avait cette idée-là. Mais c'était un peu un coup de bol, quoi. Enfin, le nombre final d'auteurs.
Alors, avant de poursuivre plus avant notre conversation, je pense qu'il est important de savoir ce que signifie le mot date en français. D'où vient-il, Pierre Savy? C'est un mot qu'on utilise tous les jours, mais j'ai été curieux de savoir qu'est-ce qu'il signifie à l'origine.
Oui, c'est un peu curieux. Alors, ça, le médiéviste que je suis le sait parce qu'il l'enseigne à ses étudiantes et à ses étudiants. La date, ça vient du verbe dare, qui veut dire donner. Donc une date, c'est une donnée, data en anglais, au pluriel, hein, c'est le neutre pluriel qui veut dire des données. Mais pourquoi donner? Et comment on passe de données à date? Parce qu'originellement, quand on rédige, c'est ce que voudra dire date, vous allez voir, quand on rédige un document, quand on produit un document écrit, on écrit, sur nos lettres, on le fait encore, si on écrit des lettres papier, ou même sur les mails, on le fait d'une certaine façon, en haut à droite de la page, on écrit Paris, le 12 avril 1950. Donc on écrit une date, parce que c'est le jour où l'on donne le document, on le rédige, éventuellement on va le donner aux personnes qui ont besoin de ce document. Et donc de ce datum originel qui désigne le lieu et le jour. Le lieu et la date, si vous voulez, c'est la même notion originellement. C'est quand et où a été fait le document. En espagnol, la date c'est fecha, qui vient du verbe faire, enfin du faire espagnol. C'est quand on a fait, quand on a donné le document. Donc on dit qu'une lettre est donnée, littera data, et donc on fait tomber le substantif, littera, et on garde data, et de là vient date. C'est le jour où a été donné, c'est-à-dire rédiger la pièce. Inscrire un événement dans une histoire en le datant, et en le retenant comme date dans une histoire des Juifs, par exemple, c'est aussi inscrire une sorte de continuité temporelle avec lui, l'inscrire dans un espace balisé, en garder la mémoire, et donc se garder de l'oubli. Donc c'est une sorte de promesse de vie continuée, de vie allongée d'une certaine façon, et c'est une idée que c'est une date, mais une date qui a sens pour toi.
Je pensais à cette citation de Lévinas dans Totalité infinie, qui dit, alors lui il utilise le terme de mémoire, mais je le remplace par le terme de date, il dit « Par la date, je me fonde après coup rétroactivement, j'assume aujourd'hui ce qui, dans le passé absolu de l'origine, n'avait pas de sujet pour être reçu et qui, dès lors, pesait comme une fatalité. » Il poursuit en disant « Le psychisme égrène une existence résistant à un destin qui consisterait à devenir rien que passé. » On a l'impression qu'il est en train de dire que la date retourne le temps mort en temps vivant, Pierre Savy.
Oui, c'est une citation très profonde, hein, qui mériterait qu'on s'y arrête. Moi, je vous remercie de me la signaler. Comme historien, je pense à une autre citation assez connue de Michelet qui prétendait à une résurrection intégrale du passé en faisant de l'histoire. Et du coup, je me dis qu'effectivement, il y a quelque chose de très beau et de très fort dans cette capacité qu'à la date de faire un pont avec le passé et de retourner le temps mort en temps vivant, pour reprendre la formule que vous venez de citer. Et en même temps, il y a peut-être quelque chose un peu illusoire dans le métier d'historien qui consiste comme ça à prétendre abolir ou à abolir fugacement le temps d'une lecture peut-être, ce qui nous sépare irrémédiablement du passé, qui fait que le passé n'est rien que passé, mais en même temps, le travail de l'historien, voilà, il prétend, plus beaucoup de gens aujourd'hui pensent que c'est à la résurrection intégrale du passé, mais il prétend à une forme d'instauration, d'une continuité, d'une inscription du passé dans mon présent.
Et j'ai l'impression que chez Lévinas, c'est plus l'opposition entre assumer une histoire plutôt que d'être le sujet passif, c'est-à-dire devenir le sujet actif de l'histoire par la date que l'on reprend, que d'être simplement rien que passé, c'est-à-dire ce sujet qui est traversé par l'histoire plutôt que de la traverser.
Alors ça, quand on parle d'histoire des Juifs, comme c'est ce qu'on fait aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui a des échos infinis avec notre objet, puisque la volonté de mettre les Juifs en position d'acteurs, non pas uniques, mais pas seulement de sujets passifs de leur histoire, est quelque chose de très présent dans la production des historiens depuis quelques temps. Moi et des collègues, nous y travaillons beaucoup. Et donc, je pense que ça peut tout à fait avoir des échos avec cette idée-là. Les Juifs ont un passé qui leur échappe et en même temps, en se le réappropriant, ils prennent conscience de ce qu'on appelle parfois d'un mot un peu vilain, mais leur agentivité, leur capacité d'agir dans l'histoire, d'agir dans leur société, d'agir dans leur temps.
En vous écoutant, je pensais à ce que Philippe Roth, qui a une place importante dans votre histoire des Juifs, écrit à la fin de La Contre-vie, l'un de ses romans, que les Juifs sont à l'histoire ce que les Esquimaux sont à la neige. Je trouve cette phrase remarquable. Comment comprenez-vous cette phrase de Philippe Roth, Pierre Savy? J'ai l'impression que on est au-delà d'un devoir d'histoire.
Oui, c'est une analogie proposée par Roth qui est un peu mystérieuse, hein, faut quand même le reconnaître. Une analogie, c'est comparer deux rapports. Donc, les Juifs sont à l'histoire ce que les Esquimaux sont à la neige. Donc, pour comprendre, il faut se dire, que sont donc les Esquimaux à la neige? Et il y a plusieurs pistes. On peut considérer qu'ils la connaissent, on peut considérer quel est leur élément naturel. Mais alors, on se demande si c'est propre aux Juifs. Tout homme, toute femme sont versés dans l'histoire, pas plus ou moins qu'un Juif. Et puis, on peut dire peut-être qu'ils ont avec l'histoire une familiarité, une nécessité de la connaître et une perception de ce qu'elle leur fait. Alors là, c'est un peu lacrymal, hein, je m'en rends compte, mais plus grande. C'est peut-être ça l'idée que je proposerais. Les Juifs, ceux d'Amérique du XXe siècle dont parle Roth, sont aux prises avec l'histoire de façon peut-être plus évidente que d'autres hommes, pas que tous les hommes, mais que d'autres hommes. Et je vous répondrai avec cette trop célèbre, mais néanmoins très belle, je trouve, formule de Georges Perec au tout début, presque à l'incipit de W, ou Le souvenir d'enfance, qui est un très beau livre de 1975, où il dit que qu'il estimait ne pas avoir de souvenirs d'enfance et que sa vie avait été marquée par l'histoire avec une grande hache. Donc cette formule, elle est bien connue, elle reste très forte. Et cette idée, voilà, qu'un petit enfant qui a perdu ses deux parents, qui a été élevé à partir de 1945 dans un monde décimé, il ressent fortement la présence de l'histoire avec la grande hache. Il n'y a pas plus d'historicité des juives et des juifs que celle des autres hommes, évidemment non. Mais il y a peut-être cette idée, comme les Esquimaux avec la neige, ils la fréquentent de près, disons. Je crois que c'est ça le sens que je retiendrai.
Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing.
Quand je vous ai demandé de choisir une archive sonore pour accompagner notre conversation, Pierre Savy, vous avez choisi cette chanson de Bob Dylan, une chanson avec laquelle on pourrait faire le tour du monde, tant elle a été reprise et a été l'occasion de réappropriation par de très nombreux chanteurs de styles très différents. Mais pourquoi ce choix, Pierre Savy, et cette annonce des temps qui changent dans cette chanson est reformulée de manière continue, est-ce qu'elle a une actualité particulière pour vous ?
Ah, bonne question. C'est une chanson de 1963 de Bob Dylan qui s'intitule « The time they are a-changing ». Il y a un « a » devant le verbe qui est une vieillerie, une bizarrerie que l'anglais permet pour insister sur ce verbe, même si on ne le sait pas forcément. Et donc, ça signifie que les temps changent. La chanson de Bob Dylan est un des exemples les plus emblématiques de ce qu'on appelle une protest song, une chanson avec une dimension d'engagement contestataire dans les années 60-70. Il s'en est écrit et chanté beaucoup en Amérique. Lui dit que les temps changent et la raison pour laquelle je l'ai retenu, je vais tout de suite vous répondre, d'abord c'est que je l'aime bien et je trouve que c'est une belle chanson qui me parle étonnamment parce que c'est pas mon pays, c'est pas mes années, il est 63, j'étais pas né, mais toutefois c'est une musique qui m'émeut, qui je pense nous émeut un certain nombre de gens encore. Et puis il s'agit de temps, les temps changent, voilà, on parle des dates aujourd'hui et la fois passée, donc ça me paraissait être dans le thème. Et puis bien évidemment, c'est pas une chanson juive, mais enfin Bob Dylan est juif, il a eu avec le judaïsme des rapports compliqués et changeants dont je suis pas expert. C'est un homme qui est juif, qui a été élevé comme un juif et qui ici présente des temps qui changent. Les eaux ont monté, suivez le courant pour ne pas vous noyer, le monde ancien est en train de se disparaître, la roue tourne. Donc il y a toute une dimension de très grande conscience aiguë de l'historicité, du fait qu'on est dans une histoire qui change, qui me paraît, en forçant un peu, un message un peu juif et un peu historien, disons. Alors, j'exagère un peu, mais il y a quand même cette idée-là, l'idée que ce qu'on disait la fois passée, que l'histoire des Juifs ne peut pas être perçue comme quelque chose d'immobile ou comme une sorte d'éternel retour. Enfin, il y a des modèles de temps qui sont passionnants et qui sont ceux-là. C'est pas le cas de l'histoire des Juifs qui, elle, a conscience du fait que le temps change. Alors, est-ce qu'il change plus en 63 qu'en 62 ou qu'en 64? Ça, je crois pas trop. Mais lui, ce à quoi il pensait, c'était l'objet des protestes songs, c'était des mouvements de pacifisme, d'abandon de structures anciennes, d'éloignement à l'égard d'un certain encadrement de la société et de la jeunesse en particulier. Je pense que c'est à ça qu'il pense.
Et est-ce qu'elle a pour vous une actualité particulière?
Non, c'est ce que je voulais dire. Non, en ce sens que je crois que les temps changent toujours. Je crois que le métier d'historien, il nous enseigne que même l'accélération de l'histoire, c'est une notion face à laquelle on est un peu méfiant. Alors on peut dire qu'on a le sentiment, ces mois-ci, de vivre, en tout cas quand on regarde l'histoire des Juifs, des mois très angoissants et douloureux. Mais je pense que les temps ne cessent jamais de changer. Il n'y a pas de société sans histoire. Hein. On a coutume de dire que l'histoire commence avec l'invention de l'écriture. En fait, les hommes et les femmes vivent dans l'histoire et donc les temps ne cessent de changer. Le monde est une branloire pérenne, disait Montaigne. Le monde n'arrête pas de changer. Et oui, les temps changent, mais ils changeront toujours.
Alors, je parlais du tour du monde de cette chanson et je pensais bien sûr à un autre tour du monde auquel invite votre ouvrage avec ce clin d'œil à Jules Verne qui ne peut passer inaperçu. 80 dates sur 3000 ans. Le choix a dû être difficile. Je sais que la question vous a souvent été posée, mais elle oriente la compréhension que l'on peut avoir de votre projet. Trois catégories de dates et la solution que vous avez trouvée, Pierre Savy.
Oui, alors là encore, le clin d'œil numérique, il est un peu plus voulu, mais encore faut-il quand on coordonne à trois, hein, je répète, Catel Bertolo, Audrey Kichelewski et moi avons coordonné le travail d'un certain nombre d'auteurs, pas 80, puisque certains ont écrit plusieurs dates. Mais on n'arrive pas forcément à un compte rond, là on est arrivé à 80, et du coup le sous-titre qui comporte le mot voyage, effectivement, fait un clin d'œil à Jules Verne. Et dans ces 80 dates... Bon, on a travaillé de façon empirique, en pensant à des gens, en pensant à des dates, en pensant à des gens à qui on donnait carte blanche ou à d'autres à qui on passait une commande précise. Mais on a effectivement distingué, enfin on peut a posteriori distinguer trois types de dates assez fermement, qui seraient ce que l'on a parfois proposé d'appeler, en parlant avec les éditeurs notamment, des rendez-vous. C'est-à-dire un lecteur, une lectrice couvre ce livre, ne peut pas ne pas y trouver telle ou telle ou telle date. Alors mettez ce qui vous plaît quand vous achetez une histoire des Juifs. S'il n'y a pas 1948, la création d'Israël, ou 1492, l'expulsion d'Espagne, on se dit qu'il y a quelque chose de bizarre quand même. Ça, c'est le rendez-vous. Après, il y a des prétextes, puisqu'on ne voulait justement pas une histoire strictement événementielle. On voulait que la culture, le Talmud, la Mishnah, la littérature, toutes ces choses fussent présentes malgré leur caractère peu événementiel. Et donc là, on a assumé d'aller voir un éminent spécialiste du Talmud, de lui demander une date et de lui dire « Choisis la date qui te permettra d'entrer dans le Talmud, en fait. » Et donc, il y a un texte de Jeffrey Herman, en l'occurrence, sur le Talmud. Mais voilà, il y en a plusieurs de ces dates prétextes. Et puis, enfin, il y a les dates surprises qui nous permettent de parler de choses peu connues, méconnues, inattendues. Il y a un très bel article écrit par Nadia Malinovitch sur cette rabbine libérale, Madame Jonas, en plein Berlin de l'époque nazie. Enfin, voilà, il y a des choses que les lecteurs et lectrices ne connaissaient pas forcément, que moi je connaissais pas. C'est aussi l'immense plaisir d'avoir fait ce livre, c'est que les auteurs nous ont appris plein de choses.
Alors, si vous vouliez nous offrir... trois dates, une date surprise, une date prétexte et une date rendez-vous. Qu'est-ce que vous choisirez vous-même pour nous les présenter de manière plus précise?
Bien sûr, oui. Savy. Je comprends bien votre question. Alors, je pense qu'une surprise qu'on a en ouvrant le sommaire, je vais me permettre de parler d'une des seules deux dates que j'ai écrites, c'est 740. 740 de notre ère, a priori, oui, c'est pas 1948, on s'y attend pas trop. C'est un petit texte que j'ai rédigé en lisant beaucoup de bibliographies consacrées à l'épisode de la conversion des Khazars. Alors, c'est pas totalement inconnu, ça, je pense qu'il y a plein d'auditrices et d'auditeurs qui connaissent, mais c'est pas non plus très connu, et puis surtout, pourquoi 740 ? Donc, il semble que 400 ans avant l'écriture par Yehuda Halevi de son livre, c'est ce qu'écrit Yehuda Halevi qui écrit au XIIe siècle. Donc, si on fait 1140 moins 400, on est vers 740. Vers cette date, selon Yehuda Halevi, poète médiéval, se serait converti au judaïsme les Khazars, le roi des Khazars. Et donc, de cette affirmation et d'un certain nombre d'autres documents a découlé l'idée que les Khazars, les élites, le roi, le peuple s'est débattu, ont embrassé le judaïsme quelque part vers le 8e, 9e siècle. Tout ça est très flou.
Qui sont ces Khazars? Parce que...
Bien sûr, vous avez raison. Les Khazars sont un peuple de la steppe, entre Iran et sud de la Russie actuelle. Ce sont des peuples un peu nomades, mais c'est entre la mer Noire et la mer Caspienne, disons. Et c'est un de ces peuples qui est donc assez mal attesté pour ce qui est des sources écrites, mais enfin dont on peut quand même un peu écrire l'histoire, et à propos desquels de nombreuses sources affirment qu'il y a une conversion. Donc mon premier résultat, modestement, en lisant les sources et la bibliographie, c'était de dire qu'il y avait eu quelque chose. Et c'est très important parce que cette conversion Khazar, elle a été débattue dans tous les sens, triturée, instrumentalisée par des ennemis farouches d'Israël ou par des sionistes farouches. Voilà, à mon avis, ça pourra déplaire, mais Je pense qu'il y a eu quelque chose. Quoi, on ne sait pas très bien. Mais que ces peuples de la steppe parfois embrassent une telle ou telle religion, manichéisme, christianisme, islam, judaïsme, ça arrive. Et là, il y a quand même pas mal de sources qui en parlent. En revanche, il y a beaucoup d'incertitudes. Quelque chose a eu lieu, mais quoi, on ne sait pas très bien. Que veut dire devenir juif en 740 au milieu de la steppe? Est-ce qu'ils vont être chômer Shabbat et prendre que du lait, surveiller? Non, ce n'est pas du tout évident. Il s'agit peut-être de devenir monothéiste, d'avoir de l'intérêt pour la Bible. On ne sait pas très bien ce que ça signifie, en fait. Mais il y a eu quelque chose. Et à partir de là, ce que cette petite date surprise me permet de dire, c'est de détricoter un peu les récits très, très politiques que certains ont fait. Alors, dans le récit sioniste, la conversion des Khazars, c'était quelque chose de connu et de pas du tout nié, en fait. Et puis ensuite, dans un livre qui a eu un énorme succès, qui est le livre de Shlomo Sand, au début des années 2010, là, il s'agissait d'utiliser à fond l'hypothèse Khazar pour dire que le droit de ceux qui se disent juifs sur la Judée, sur la Terre Sainte, sur la Palestine était nul, que les Ashkénazes, notamment, étaient tous des descendants de convertis, de même d'ailleurs que les Séfarades seraient tous des descendants de convertis berbères, etc. Et donc, il y a là une sorte d'histoire conflictuelle, mais très, très tendu vers une fin politique de déconstruction ou de légitimation du peuple juif. Il y a beaucoup de littérature ça, sur les Khazars. Il y a un livre d'Arthur Koestler, il y a des bribes sur ça chez Marc Bloch. Enfin, c'est une hypothèse Khazar qui a fait beaucoup, beaucoup couler d'encre et qui, à mon avis, doit surtout nous ramener à une position de modestie. Enfin, ça a eu lieu. L'État d'Israël, on en pense ce qu'on veut, mais il a été créé en 1948. Et finalement, cette volonté de délégitimer un État que par ailleurs on peut critiquer pour plein de raisons, mais au motif qu'un roi Khazar a dû se convertir en 740, ça me paraît un peu discutable.
Ça pose des questions éthiques à l'historien sur la capacité à affirmer de manière certaine des événements, alors que cet épisode Khazar, comme vous l'appelez, souligne la prudence déontologique de l'historien.
Oui, tout à fait. C'est une impression de lecture que vous me donnez et que d'autres lecteurs m'ont faite. C'est très, très frappant. Les brumes de l'histoire sont très mal réparties. Il y a des choses très bien connues. Il y a des siècles, bon, typiquement les siècles éloignés, mais ce n'est pas toujours si simple que ça, qui sont moins bien connus. Le 10e siècle occidental, on ne le connaît pas si bien que ça. Quand apparaît Rachi et tous ces commentateurs très savants de la vallée du Rhin, oui, et puis de la France orientale, disons, et pas seulement, hein, vers l'an 1000-1100, on a l'impression que les brumes se dissipent et on ne sait pas très bien d'où ils viennent. Donc en effet, ce livre, notamment pour les périodes anciennes et médiévales, montre qu'il y a beaucoup de prudence qui s'impose pour l'historien et qu'il faut se garder d'être trop catégorique. Et puis à contrario, hein, je ne voudrais pas être mal compris, il y a des choses dont on est certain qu'elles ont eu lieu.
Vous avez parlé de dates prétextes, de dates surprises. La surprise, c'est les Khazars. Quelle serait la date prétexte?
Alors, pour celle-ci, j'ai retenu une date qui m'a été suggérée par un auteur qui a fait un texte formidable, qui a été assez commenté d'ailleurs, qui s'appelle Stephen Sampson, qui est un auteur américain de langue française, hein, qui publie en français, et qui a décidé d'entrer dans la littérature juive américaine. Après tout, on aurait pu mettre Bob Dylan. Non, là, on a demandé à Stephen Sampson de travailler sur Roth, Philip Roth, le romancier américain dont il est un très bon connaisseur. Et il a choisi 1969, qui est la date de publication de Portnoy et son complexe. Et alors là, c'était une surprise parce que c'est quand même un livre qui, encore aujourd'hui, hein, je vous en recommande la lecture, mais il est extrêmement graveleux. Il s'agit de sexe, de partouze, de masturbation, à peu près du début à la fin. Donc on peut être surpris quand on lit ça, on ne s'attend pas forcément à trouver ça dans l'histoire des Juifs. C'était le choix de l'auteur de ce texte. Bon, mais la surprise, elle n'est pas seulement là. C'est que le prétexte, pardon, il est aussi de dire qu'avec ce texte très fort, très singulier, qui a fait scandale en 1969, eh bien, Philip Roth témoignait du rapport très intime, hein, de la vie juive américaine avec la culture américaine environnante, de la place importante qu'ont prise les Juifs d'Amérique dans ce que sont les États-Unis aujourd'hui. On aurait eu mille façons de le dire, c'est pour ça que je parle de prétexte. Le Jazz Singer, le premier film un peu animé, voilà, c'est quand même un gars qui doit réciter le Kol Nidre, mais qui fait du jazz. Enfin, la place des Juifs dans la culture américaine du XXe siècle, elle est grande. Et parler de cette longue psychanalyse de Portnoy et de ses déboires amoureuses et sexuelles, de sa relation très édipienne avec sa mère, enfin de toutes sortes de thèmes qu'aujourd'hui on connaît comme étant des thèmes très, très présents dans l'identité juive nord-américaine, c'est une bonne façon, une bonne entrée en matière, disons, surprenante et prétexte à la fois.
Alors c'est ça, c'est ce que j'avais entendu en filigrane dans votre propos, parce que vous avez dit surprise au lieu de prétexte, c'est que en fait, les dates prétexte et surprise peuvent parfois être les mêmes. mais il y a aussi des dates rendez-vous, comme vous l'avez dit, et je pensais peut-être à l'une de ces dates qui serait intéressante de présenter, Pierre Savy.
Oui, alors là, je pense qu'il est important et intéressant de présenter le chapitre que Pierre Birnbaum, qui a écrit énormément de choses sur l'histoire juive, sur l'histoire de la citoyenneté, de l'État, enfin sur une assez longue durée, du XVIIe siècle à nos jours, a consacré à l'émancipation, qui est un moment fondamental, moins mis en scène quand même dans le récit national que d'autres moments. On parlera peut-être de l'édit de Nantes ou d'un certain nombre d'événements heureux ou malheureux de l'histoire des minorités religieuses. Mais finalement, en 1791, il se passe quelque chose d'important, c'est l'émancipation des Juifs de France, 2 ans après la prise de la Bastille. Alors, ce que réussit à faire Pierre Birnbaum, et donc vous allez trouver que tout ça se recoupe et que je suis encore dans une surprise alors que c'est une date rendez-vous, on peut pas faire un livre d'histoire des Juifs sans parler de l'émancipation. Il y a plein de livres sur ça, c'est quelque chose de connu quand même. Mais il arrive toutefois, l'auteur, dans cet excellent texte, à nous montrer de façon un peu surprenante que donc les Juifs obtiennent l'égalité au prix d'un certain nombre de débats enflammés. Il y a des opposants, il y a des gens qui sont favorables. Au sein même des Juifs, certains sont prêts à faire des concessions en abandonnant un peu de leur autonomie juridictionnelle, par exemple, tandis que d'autres sont plus rétifs. Mais tout ça débouche quand même en 1789-90 et finalement 91 sur une émancipation dont on dit souvent, notamment dans le milieu juif, il y a des débats franco-américains très vifs là-dessus, qu'elle est un peu coûteuse. Vous savez, on dit parfois en Amérique, on respecte plus les minorités, on a plus le droit de vivre dans son petit coin. La France, ok, elle émancipe, mais qu'est-ce qu'elle est exigeante, la laïcité française, etc. Alors, en partie, ce serait une autre émission, mais je peux souscrire à ce jugement un peu sévère sur notre laïcité. Mais ce que montre très bien Pierre Birnbaum, c'est que ce qui s'est produit en 1791, ça n'est pas cela. Et il cite une phrase hyper célèbre de Clermont-Tonnerre. Il faut refuser tout aux Juifs comme nation et accorder tout aux Juifs comme individu. Beaucoup connaissent cette phrase. Donc c'est ça l'idée. On les émancipe, mais ils n'ont pas d'existence nationale au sein de la nation. On veut pas d'un État dans l'État, d'une nation dans la nation, certes. Mais ce que fait Birnbaum, c'est qu'il montre que dans l'émancipation qui finalement est concédée aux Juifs, il n'y a pas cette notion un peu violente d'abandon de la spécificité juive. Et je lis, parce qu'en plus c'est drôle, donc autant s'amuser. Je lis la suite de Clermont-Tonnerre, et donc je cite Pierre Birnbaum qui cite Clermont-Tonnerre. La loi de l'État ne peut atteindre la religion de l'individu. Y a-t-il une loi qui m'oblige à épouser votre fille? Y a-t-il une loi qui m'oblige à manger du lièvre et à en manger avec vous? Ce ne sont pas des délits que la loi puisse atteindre. Fin de citation. Donc l'émancipation de 1791, c'est un événement heureux parce qu'elle donne enfin l'égalité juridique et politique aux Juifs dans cette France révolutionnaire. Mais ça n'est pas porteur, en tant que tel en tout cas, de cette espèce de violence qui nierait l'autonomie juive, comme on l'a dit, parfois un peu vite. Il y a d'autres éléments compliqués dans la laïcité, mais je trouve que le texte de Birnbaum, il est fort aussi pour ça. Sans le dire, c'est sa dernière phrase, « La République s'ouvre au respect de l'autre ». Fin de citation.
Merci pour ces dates, surprises, prétextes et rendez-vous. Alors bien sûr, 80 dates ne peuvent résumer ces 3000 ans d'histoire, mais c'est un livre ouvert avec des pistes bibliographiques qui accompagnent chaque article et des index fournis qui permettent de se construire des itinéraires personnels. Mais y a-t-il, Pierre Savy, après coup, avec les retours que vous ont fait les lecteurs, de par la situation qui a changé, comme les temps qui changent de la chanson de Bob Dylan, ou pour d'autres raisons, une date ou des dates qu'aujourd'hui vous aimeriez rajouter dans votre ouvrage, et qu'est-ce que vous espérez que ce livre change justement, Pierre Savy?
Alors pour ce qui est de la première de vos deux questions, la réponse est oui. Si l'éditeur voulait refaire avec nous une version enrichie, ben on aurait un peu l'embarras du choix. Une édition italienne, traduction édition, est sortie il y a quelques temps et elle avait déjà un peu enrichi le livre. Alors je pense qu'il y aurait plein de réponses possibles, notamment médiévales, nord-africaines, séfarades. C'est quand même des choses sur lesquelles il aurait fallu mettre un peu plus de texte. Moi je pensais à la création du Mela à Fès en 1438. Je pense que c'est une date pour le coup pas forcément connue, mais qui renvoie à une réalité institutionnelle très connue, très présente, notamment en France où là, une partie importante des Juifs sont d'origine nord-africaine. Si je devais ne retenir qu'une date, je penserais peut-être au dictionnaire de Ben Yehuda. Finalement, la langue hébraïque, en 1910, bon là c'est une date parmi d'autres dans la vie et dans la trajectoire extraordinaire de Ben Yehuda, dont je recommande vraiment chaudement la lecture des mémoires, parce que c'est traduit en français, publié, c'est un texte tout à fait extraordinaire. Et en 1910, le Milon, donc le dictionnaire, l'invention ou la renaissance, enfin invention-renaissance, enrichissement de l'hébreu me paraît une date qui manque. Il y en aurait plein d'autres. Le procès à Eichmann, on pourrait lui consacrer quelque chose. Si c'est un homme de Primo Levi, c'est dans l'édition italienne, parce que Primo Levi est un auteur italien, mais ça ne déparerait pas dans une édition française. C'est un texte extraordinaire si c'est un homme. Ce sur quoi je ne me prononcerai pas facilement, parce que comme médiéviste, comme historien, je suis méfiant par rapport au trop récent, c'est le 7 octobre. Donc je vous remercie de ne pas m'avoir posé la question, mais je la pose moi-même pourtant. Est-ce que le 7 octobre 2023 devrait figurer ? Bien sûr, c'est une date effroyable, présente dans nos sensibilités de ce printemps 2024. Il est possible que ce soit une date vraiment importante, mais ça, peut-être que l'avenir nous le dira. Mais pour les dates un peu plus anciennes, sur lesquelles on a un peu plus de recul, pour dire une chose très banale, je dirais que c'est ça les principaux remords, c'est beaucoup dire, mais voilà, une date sur l'expulsion des Juifs de Rome en 19 de notre ère, le Mela, je l'ai dit, le Milon de Ben Yehuda. Ce que le livre espère faire, c'est votre deuxième question, ça, bien malin, celui qui vous répondra avec certitude. J'aimerais qu'on garde, c'est des choses qu'on a dites un peu, hein, de l'histoire des Juifs en refermant ce volume, même si on ne l'a pas lu dans l'ordre, en cessant d'y butiner, l'image d'une histoire contrastée, avec bien autre chose que des persécutions et des larmes. Une histoire extraordinairement continue, ça met quand même un peu... Voilà, on insiste sur le fait qu'en histoire, il n'y a pas vraiment de continuité, que le mot juif, il change de sens, etc. Mais enfin, il y a quand même là 3000 ans d'histoire qui me donne quand même à saisir un peu les éléments de continuité. Donc diversité, continuité, pages sombres et pages moins sombres, et complexité de cette histoire juive, et puis surtout qu'on la connaisse mieux. Je pense que les lecteurs savent bien certaines choses, et il y a des pans importants de l'histoire des Juifs dans les 3000 ans qui sont absents. Les femmes, beaucoup de gens nous l'ont dit, sont très présentes dans ce livre. C'est pas seulement une mode historiographique, c'est une nécessité. Et on peut écrire l'histoire en leur faisant place, on peut ne pas le faire, on l'a fait pendant très longtemps, mais c'est idiot. Et là, en effet, depuis cette première rabbine, Regina Ilionas, que j'évoquais tout à l'heure, jusqu'à d'autres figures, d'écrivaines, Ascarelli, Glucken von Hameln, sur laquelle Ivan Jablonka a écrit un texte, etc., il suffit de bien vouloir leur faire place pour qu'elles soient présentes. Je pense que c'est une des petites leçons du livre, enfin je l'espère.
Merci Pierre Savy pour cette deuxième semaine d'échanges qui ont ouvert de beaux et surprenants horizons. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez dirigé avec Katel Berthelot et Audrey Kichilevski, Histoire des Juifs, un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours. C'est aux presses universitaires de France, un livre qui, sans aucun doute et sans jeu de mots, fera date. Merci encore Pierre Savy.
Merci Marc-Alain.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Pierre Henry, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture, à l'onglet Talmudique, Koltouv, le Hitraot. Au revoir, bon dimanche à tous, bonne fête de Pessah et à la semaine prochaine.